Suivez le 84e congrès HLM de l'Union sociale pour l'habitat du 24 au 26 septembre 2024 à Montpellier depuis le stand du gouvernement en partenariat avec Radio Territoria.
Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Territoria en direct de Montpellier au congrès HLM depuis le stand du gouvernement. Cette première émission, eh bien, nous allons la consacrer à la mixité sociale dans les attributions de logement social. Le ministère du Logement en a fait un objectif majeur en s'appuyant notamment sur la circulaire du 18 décembre 2023 qui rappelle aux préfets les différents leviers en faveur de la mixité sociale. Un objectif qui est porté en parallèle dans les contrats de ville pilotés par l'Agence nationale de la cohésion des territoires, l'ANCT, et par l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, l'ANRU. Dans cette émission, nous vous proposons un premier état des lieux, des leviers et applications sur le territoire. Et pour nous en parler, eh bien, j'ai le plaisir de recevoir trois invités sur ce plateau. Stéphanie Herales, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice générale adjointe, client et cadre de vie pour Patrimoine Languedocienne. Bienvenue à vous.
Merci.
Olivier Duvernois, bonjour.
Bonjour.
Directeur de la politique de la ville à la métropole de Toulouse. Et Carole Rifosta, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef de bureau en charge des attributions des logements sociaux et du DALO, direction de l'habitat et de l'urbanisme et des paysages pour le ministère. Et puis je vous rappelle, d'ailleurs ce sera le principe sur chacune de ces émissions, que vous pouvez poser vos questions en direct à nos invités du jour et qui seront évidemment un plaisir d'y répondre en seconde partie d'émission. Et ce sera d'ailleurs avec l'appui d'Hélène Parmentier. Bonjour.
Bonjour Jean-Baptiste.
Bonjour Hélène, chargée de mission à la sous-direction territoire et usager au sein du ministère chargé du logement. Allez, la première question, elle s'adresse à Carole Rifosta, est-ce que vous pouvez nous rappeler concrètement les enjeux, les objectifs fixés par la circulaire du 18 décembre 2023, relative, je le rappelle, donc à la mixité sociale dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, destinée aux services de l'État, et cela pour assurer plus de mixité sociale dans les attributions, et c'est important, de logements sociaux.
Oui, tout à fait. Merci de nous recevoir aujourd'hui et de pouvoir organiser cette rencontre sur ce thème qui, pour nous, est vraiment très important à développer et à défendre au niveau des politiques des attributions. Donc, effectivement, c'était à la suite du comité interministériel des villes de fin d'année 2023 qu'il a été souhaité de pouvoir mettre au cœur des politiques des attributions de logements sociaux, finalement, l'objectif de mixité sociale, tout en positionnant le préfet dans son rôle en fait, de garant pour une bonne avancée des politiques et des différents leviers qui pourraient être mis au niveau local. Donc en fait, l'objectif était bien évidemment d'inverser la tendance, c'est-à-dire de pouvoir loger des ménages un peu plus fragiles ou un peu plus défavorisés hors des quartiers politiques de la ville, et inversement de pouvoir faire venir dans les nouveaux quartiers en fait, de nouveaux publics, et ce afin de pouvoir atteindre un équilibre d'attribution et finalement de peuplement. Donc très clairement, cette circulaire en fait met en œuvre deux aspects. Donc le rôle du préfet, bien évidemment, qui doit veiller à ce que les publics plus fragiles, notamment les DALO les plus précaires, soient logés hors QPV, mais également qu'ils puissent évaluer tout au long des politiques mises en œuvre le déploiement aussi des centres d'hébergement qui ne sont plus souhaités, en tout cas au sein des quartiers politiques de la ville. Donc ça, c'était du côté du préfet. Il est aussi un peu garant un peu de toute la procédure et des relations entre les différents acteurs. Et également, côté bailleur, il y a plusieurs leviers qui sont déjà proposés. Finalement, donc, que ce soit sur la diversification des typologies de l'offre à faire au niveau des quartiers politiques de la ville, mais également jouer sur les aspects de rénovation de leur parc afin d'intégrer aussi une dynamique et une attractivité sur le parc existant en quartier politique de la ville. Et bien sûr, le levier qui avait été rappelé concernant la modulation des loyers et puis les différents outils pour pouvoir moduler ou échanger des logements. Donc bien évidemment, cette circulaire, elle ne va pas régler toutes les problématiques rencontrées au niveau local. On sait très bien, on a tout à fait conscience des problématiques qui sont rencontrées, que ce soit au niveau foncier, au niveau financier, voire politique. Par contre, elle a le mérite de pouvoir rappeler et d'affirmer effectivement que ces leviers existent et qu'il faut s'en saisir. Donc c'est un peu l'objectif de cette première axe. Alors après, il y a également dans cette circulaire la possibilité, la nécessité de pouvoir développer les nouveaux types de gouvernance avec le rappel de l'importance des CIL, des conférences des CIA, pardon. Et du coup, les conférences intercommunales du logement et les conventions intercommunales d'attribution. Donc l'idée, c'est de se saisir effectivement de ces deux outils, de pouvoir en faire des réels lieux d'échange et non pas juste d'en créer un cadre un petit peu qui soit inopérant au niveau local. Un autre aspect qui est intéressant, c'est aussi de pouvoir parler aussi entre les différents acteurs et de mener des concertations, que ce soit lors des programmes, de la livraison de programmes neufs, mais ça, je pense que pas mal de bailleurs le font déjà, mais c'était bien de le rappeler. Et voilà, et effectivement, la mise aussi en œuvre du positionnement du préfet pour pouvoir évaluer tout au long de cette mise en œuvre les différentes politiques. Le dernier volet qui était aussi développé dans le cadre de la circulaire, c'était la possibilité de pouvoir suivre des nouvelles actions un peu innovantes, que ce soit en matière de location choisie pour repositionner aussi finalement le demandeur dans une démarche active. Et puis de pouvoir peut-être aussi essayer de voir un peu plus loin. C'est bien de faire des bourses de logement au sein des bailleurs, mais pourquoi pas aussi d'utiliser des leviers entre bailleurs. Voilà.
Et à quelques mois justement de la mise en œuvre de cette circulaire, quel bilan il est possible finalement d'en tirer ?
Alors le bilan, effectivement, au bout de 6-7 mois, c'est un peu compliqué parce qu'on sait bien que les politiques de mixité sociale, ça s'inscrit dans le temps long. Donc on a eu quand même quelques premiers retours. On a mené un bilan en lien avec l'Agence nationale de la cohésion des territoires à fin juin. Et du coup, ce qui était remonté, c'était quand même effectivement des difficultés, bien évidemment, à reloger des ménages d'allo hors QPV. Avec l'absence de cadrage au niveau national. Donc nous, ce qu'on a souligné dans cette histoire-là, c'est qu'effectivement, l'objectif était aussi de pouvoir laisser la possibilité aux territoires de définir leurs propres critères pour pouvoir définir ce qu'était un DALO précaire. On a délibérément laissé en fait la main au local pour pouvoir définir, puisque c'est effectivement les politiques d'attribution qui sont pilotées de très près au niveau local, et les personnes ont plus l'habitude d'identifier les problématiques rencontrées sur leur territoire. Donc ça s'est fait quand même pas mal au niveau de l'Île-de-France notamment, où certains critères ont pu être définis à l'issue de différentes observations, pour ceux qui avaient des observatoires. Donc ça s'est fait assez facilement. Le deuxième point aussi qui avait été soulevé dans les remontées à fin juin, c'était qu'il ne fallait pas réutiliser en fait des conférences ou des institutions, enfin des instances de gouvernance nouvelles, mais plutôt s'appuyer sur des nouvelles, je vais y arriver ce matin.
Pas de souci.
S'appuyer plutôt sur des instances existantes. Donc on a parlé des CIL tout à l'heure, donc c'est effectivement, il faut s'en saisir, mais également de certaines coordinations qui existent, notamment au niveau des maires, les commissions de coordination notamment, qui peuvent être créées par les maires dans les quartiers politiques de la ville. Donc ça, ce sont des instances qui existent, il ne faut pas hésiter à s'en saisir. Après, ce qui est beaucoup remonté aussi des territoires, c'est qu'il faut absolument définir en fait un diagnostic partagé et très précis de l'occupation du parc social. Donc certains se sont fait aider par des assistances à maîtrise d'ouvrage, d'autres sont passés par des observatoires, ce qui a été le cas aussi sur l'Île-de-France. Mais ce qui était aussi souligné, c'était la nécessité d'avoir une volonté politique forte pour porter en fait ces politiques-là. Et également la possibilité de trouver l'échelle pertinente pour pouvoir faire de la mixité sociale. Et ce qui nous est beaucoup remonté, c'est que l'échelle de l'EPCI était en fait la bonne échelle, puisque, comme on l'a dit, elle est dotée de pas mal d'outils, notamment les plans partenariaux de gestion de la demande, de l'information des demandeurs, mais les CIA, les cotations. Et un autre point intéressant également était celui de pouvoir regarder le profil des différentes résidences. Et donc d'aller jusqu'à une cotation des résidences, une cotation de l'offre. On a beaucoup parlé de la cotation de la demande côté demandeur. Et finalement, ce serait bien de mettre en face aussi bien la cotation de la demande que la cotation de l'offre pour pouvoir réfléchir ensemble avec l'ensemble des partenaires à une politique qui puisse en tout cas aboutir à une certaine mixité sociale. Voilà. Et alors un dernier point qui était aussi assez intéressant, c'était le fait de pouvoir maîtriser les données. Donc comment on fait pour avoir cette connaissance? Ça passe aussi par les différents systèmes d'information. Et puis avoir accès à ces données, pouvoir les échanger entre acteurs. Donc ça permet vraiment une meilleure fluidité finalement entre les différents acteurs.
Ok, merci. Là, un bilan complet. voilà. Si on parle des autres leviers que le ministère a pu mobiliser afin justement d'accompagner cet objectif de mixité sociale qui est toujours recherché.
Alors nous, effectivement, on a continué à proposer des outils aux différents acteurs. C'était le cas notamment fin 2023 avec l'adoption du nouveau décret relatif à la dérogation au plafond de ressources au logement social pour l'accès au logement social. Donc l'idée, étant donné qu'on était dans une période où les périmètres QPV étaient en pleine évolution, l'idée c'était de pouvoir prolonger, enfin en tout cas se faire se prolonger les différents arrêtés pris sur des quartiers qui sortaient de la politique de la ville pour pouvoir leur permettre de continuer leur action. Donc ça c'était déjà une première action. Après effectivement la loi 3DS, elle a mis en place tout ce qui est reporting 3DS pour pouvoir reloger hors QPV 25% des publics prioritaires et fragiles, enfin du premier quartile en tout cas, et puis 50% des autres quartiles en QPV. Donc on est sur la première année d'exercice de ce reporting, avec cette année en 2024 une petite difficulté complémentaire dans la mesure où les périmètres politiques de la ville ont changé. Mais en tout cas, les outils sont là et on espère que les acteurs vont pouvoir s'en saisir complètement. Et alors pour nous, ce qui est très important aussi et ce qui est à souligner, c'est qu'il faut absolument mobiliser le volet EOL, donc évaluation de l'occupation des logements sociaux, au sein des CALEOL. C'est un volet qui était prévu depuis 2017 et qui malheureusement n'a pas encore rencontré son succès. En tout cas, a du mal à être mis en place et je pense que c'est un véritable levier pour pouvoir servir les objectifs de mixité sociale.
Alors, vous parliez à l'instant d'outils, on va continuer à en parler avec Olivier Duvernois. Je rappelle que vous êtes directeur de la politique de la ville à la métropole de Toulouse. Quels outils, justement, vous avez mis en place pour réaliser cette fameuse mixité sociale dans les logements sociaux sur la métropole de Toulouse? Comment est-ce que vous vous êtes mobilisé autour de cela?
Je vais m'inscrire un petit peu dans la continuité de ce que vient de dire Carole. Il y a deux leviers très très importants qu'on a activés très tôt sur la métropole. C'est la question effectivement de l'échelon intercommunal. Ça, c'est assez, assez essentiel, surtout dans une métropole aussi dynamique que Toulouse. La question de ce qui fait territoire pour nous est assez centrale sur les questions de politique du logement. Et le deuxième sujet, c'est la question de l'interbailleur, avec effectivement un parc de logement social qui peut être effectivement très territorialisé, en particulier sur les QPV. Donc ce travail, aujourd'hui, il est engagé, mis en place depuis 2019. Donc on est vraiment dans une trajectoire de moyen terme, avec un certain nombre de dispositifs qui sont en place, ceux qui ont été cités, la CIL, les CIA, qui permettent aujourd'hui de disposer d'un partenariat très fin, opérationnel aussi, entre la collectivité, les bailleurs et les services de l'État, et puis de commencer à travailler de façon plus fine sur la relation entre l'observation et l'attribution. Donc dans ce cadre-là, le travail a été poussé et aujourd'hui, depuis le 1er janvier 2024, on travaille effectivement sur les outils de cotation et de gestion en flux des droits de réservation. Ça fait 6 mois. C'est un travail, alors Stéphanie complétera, c'est un travail de titan parce que je crois qu'elle s'y est beaucoup impliquée. Que ce soit pour la collectivité ou les bailleurs, c'est tout à fait une autre façon de travailler. Et on va effectivement commencer à voir les premiers retours d'expérience avec une CIL qui se tiendra en décembre. Ce qui est aussi pour nous très important, et ça a été aussi cité, c'est la question de l'observation. On ne fait pas des attributions sans connaître son territoire. Et à Toulouse, on a fait un choix qui est assez intéressant, qui est de ne pas dissocier les questions de peuplement dans le logement social des questions de peuplement dans le logement privé. Parce qu'en fait, là, on est un peu au cœur du sujet, surtout sur certains grands quartiers qu'on connaît bien ensemble, où quelque part, la cohabitation du parc social et de copropriété privée, en fait, c'est un peu ça, aujourd'hui, le vrai sujet des questions de mixité sociale. Et ça ne se joue pas simplement sur les questions d'attribution sur les logements sociaux, mais c'est bien la façon dont on traite ces copropriétés avec les effets de bord que l'on peut observer. Globalement, ce que l'on peut dire aujourd'hui à ce stade, c'est que voilà, on a cette antériorité depuis 2019, la question de l'intercommunalité, donc la bonne échelle du territoire, la question de l'interbailleur. Et pour nous, c'est assez essentiel, effectivement, d'avoir aussi une pérennité, une visibilité dans les dispositifs. C'est-à-dire que l'on voit que les logiques de cotation, aujourd'hui, de gestion en flux, c'est compliqué à mettre en place. Aujourd'hui, on n'a pas les premiers retours d'expérience. Donc, ce que l'on plaide aussi aujourd'hui, c'est laissez-nous le temps, effectivement, de travailler sur ces sujets-là. Et puis, ne mettons pas en place, ne faisons pas émerger un nouveau dispositif, alors qu'on n'a toujours pas le retour d'expérience et, effectivement, les résultats du dispositif précédent. 2019, c'était il y a 5 ans. Et c'est aujourd'hui, effectivement, qu'on commence à observer un certain nombre de résultats.
Alors justement, vous me parlez de retour d'expérience que vous n'avez pas encore, mais est-ce que vous disposez malgré tout de premiers éléments de bilan?
Alors, Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, le fait effectivement d'avoir travaillé à l'échelle intercommunale, ça c'est absolument essentiel. Surtout effectivement quand on a la trajectoire et la dynamique démographique de Toulouse. Donc ça, ce premier retour de bilan, on l'a, c'est la bonne échelle. La question de l'interbailleur est absolument essentielle. A fortiori, quand on parle de renouvellement urbain, aujourd'hui, compte tenu du nombre de logements que l'on a à démolir, on ne peut pas simplement s'appuyer sur les trois bailleurs démolisseurs. Sinon, au bout d'un moment, ça ne marche plus. En fait, on encalmine en fait, la question des attributions. Et le troisième retour d'expérience que l'on a, c'est celui que je citais précédemment. C'est la question, effectivement, en matière de mixité sociale, de la relation entre le parc social et le parc privé, surtout dans les QPV où la question des copropriétés dégradées est assez essentielle. Après, aujourd'hui, les premiers retours d'expérience qu'on a sur les questions de cotation et de flux, je vais être assez modeste. Aujourd'hui, on a plutôt effectivement travaillé sur les mises en œuvre et en fait, les premiers retours d'expérience et les premières évaluations, on les fera plutôt à la fin de l'année, sachant que voilà, par rapport à ces sujets-là, c'est quand même une refonte assez complète du dispositif. Donc, on va être effectivement assez modeste sur les premiers résultats.
Si on fait un point sur les difficultés éventuelles que vous avez rencontrées pour améliorer justement cette mixité sociale au sein des quartiers de la politique de la ville et hors QPV, si on parle des loyers élevés, de la baisse du taux de rotation, offre insuffisante, est-ce que vous avez mis en place un vrai système de location voulu ?
Alors, aujourd'hui, on a un effet un peu conjoncturel quand même, qui est un peu compliqué. C'est-à-dire que compte tenu de la crise immobilière, on peut avoir effectivement les meilleures intentions de la Terre. À un moment ou à un autre, la situation actuelle fait que, en fait, il y a très peu de mouvement dans le parc social. Et puis, on a aussi à gérer des situations sociales qui sont de plus en plus difficiles. Donc, à un moment, on fait aussi avec cette réalité sociale. Et c'est quand même aussi le cœur de notre motivation et le cœur de notre métier. Donc, ça, c'est un point assez essentiel. Après, sur la question de la mobilisation des outils, on a mis en place un dispositif, alors, qui est très élaboré, que Stéphanie pourrait compléter, autour des questions de relogement dans les processus de renouvellement urbain, où justement, effectivement, on essaye de trouver, à travers aussi des compensations de loyers, la capacité à un certain nombre de familles d'être dans des trajectoires de relogement qui leur permettent, effectivement, alors qu'ils quittent leur logement, d'avoir une vraie solution positive lorsqu'elles sont relogées, que ce soit parce qu'elles changent de quartier ou qu'elles restent dans le même quartier, ou éventuellement avec des effets de compensation de loyer que l'on est capable de proposer.
Allez, on va s'intéresser aux bailleurs maintenant, Stéphanie et Erales, bailleurs patrimoine et sa langue d'Ossienne. Du côté justement des bailleurs, comment se met en place cette volonté de plus de mixité et par là la diversification de l'offre dans les quartiers, notamment en QPV?
Alors, juste pour la carte d'identité de patrimoine, je prends 2 secondes. C'est 14 000 logements sur la région Occitanie-Aquitaine, de Saint-Jean-de-Luz à Montpellier, avec effectivement 77% de notre patrimoine sur la métropole toulousaine et 27% de notre patrimoine en QPV, dont l'essentiel sur la ville de Toulouse. Cette question de la mixité sociale pour le bailleur social, je fais un pas de côté. On sait qu'on est dans les enjeux, dans les objectifs. Néanmoins, il faut quand même qu'on partage que cette mixité sociale, elle n'a jamais été véritablement définie. Et pour le bailleur social, on est en déclinaison finalement de directives, de lois qui nous mettent sous responsabilité de décliner une contribution à la mixité sociale, d'assurer la promotion de la mixité sociale, mais sans jamais véritablement nous dire qu'est-ce que c'est que cette mixité sociale. Évidemment, on mesure bien en quartier prioritaire politique de la ville les enjeux de diversification, d'un peuplement, et ça a été beaucoup dit. Il y a 2 choses que je retiendrai des témoignages de Carole et d'Olivier. La première, c'est effectivement la question de la diversification de l'offre sur la base de laquelle on fait le pari de la diversification du peuplement. Et la deuxième, c'est la question de l'échelle. La pratique quand même de l'organisme HLM, elle se décline à partir de nos données. Et notre méthode pour décliner la mixité sociale, c'est de travailler ce qu'on appelle plutôt l'équilibre de peuplement. L'équilibre de peuplement, il se décline à l'échelle d'un immeuble. Et on retrouve cette question de l'échelle. Ce qui est quand même important de dire, et c'est pour ça que le PCI est probablement le bon niveau d'animation de ces enjeux de mixité sociale, c'est que On peut témoigner, vous le disiez tout à l'heure, de quoi peut-on témoigner en termes de mixité sociale? Il faut se rappeler que dans les années 90-2000, le bailleur social, quand il travaillait la mixité sociale, il travaillait une forme de pixelisation des logements à l'échelle de la cage d'escalier en fonction des niveaux de financement. Et c'était ça notre perception de ce que serait la mixité sociale à l'échelle du bâti. En réalité, on a... en retour d'expérience, bien vu que ça ne générait pas de mixité sociale. Et un peu caricaturalement, je dirais qu'on n'obligera pas des gens à vivre ensemble s'ils ne veulent pas vivre ensemble à l'échelle du plus intime qu'est le logement. Donc moi, il me semble qu'il faut aussi faire ce pas de côté et se rappeler quels sont nos objectifs. Je pense que c'est très important quand la métropole toulousaine porte cette idée que la mixité sociale doit être appréhendée à l'échelle du bailleur social, des bailleurs sociaux, des enjeux de relogement, mais aussi à l'échelle finalement des copropriétés, de la structuration immobilière finalement de la totalité d'un quartier, quand on parle des quartiers prioritaires de la politique de la ville. La réforme des attributions, c'est un vrai outil. J'ai envie de dire qu'on l'a beaucoup vécu comme une contrainte. On accouche un petit peu dans la douleur, je pense que on peut partager ça. Néanmoins, il y a une vraie opportunité à s'adosser à cette gestion en flux, s'adosser à cette cotation de la demande, pour pouvoir finalement nous accompagner et poursuivre nos objectifs très pratico-pratiques de cotation de l'offre. Il faut se rappeler quand même que dans la loi, il y a ciblé ce qu'on appelle les résidences en enjeu de mixité sociale, que ça repose évidemment sur une photographie de la structuration en termes de données de fragilité sociale de l'immeuble, et que pour ce qui nous concerne, nous, bailleurs sociaux, ces enjeux d'équilibre de peuplement, l'objectif de mixité sociale par l'équilibre de peuplement, en termes d'attribution, il part bien de cette photographie de l'immeuble et de la photographie de l'immeuble aussi sur un territoire plus large, mais qui doit être animé, cette photographie, probablement par le PCI, parce que c'est bien l'échelle du quartier, l'échelle de l'îlot urbain, qui nous permettra d'atteindre des objectifs réalistes. Le bailleur social, il utilise, en tout cas pour patrimoine, ces enjeux d'équilibre de peuplement, ils vont bien au-delà de la question des quartiers prioritaires de la politique de la ville, et ce sont des objectifs qu'on poursuit sur la totalité de notre patrimoine, avec une attention portée en termes de fragilité sociale sur trois critères essentiels, le lien à l'emploi, la monoparentalité et le nombre d'enfants.
Et quelle méthode, finalement, vous utilisez, vous, pour faciliter les attributions des ménages les plus en difficulté, hors des QPV, entre vous et les différents réservataires?
Alors, bon, d'abord, la gestion en flux, les réservataires, la mise en œuvre de cette réforme, elle repose d'abord sur la qualité du partenariat et notre capacité à être parfois dans la négociation de dentelle, logement par logement. Olivier évoquait un dispositif tout à fait toulousain de compensation de loyer quand effectivement on a une opportunité de logement qui nous permet de satisfaire à une demande de locataires issus des programmes en démolition, donc avec un enjeu de conviction hein, de notre locataire qui n'est pas demandeur de logements sociaux et il est certain que le bilan qu'on fait, c'est qu'au-delà du fait que nos locataires ne veulent pas forcément sortir du quartier, la question de la diversification de l'offre qu'on est susceptible de produire à l'extérieur des quartiers, est souvent perçue comme plus chère et pas toujours qualitative. Donc là, il y a un vrai enjeu de production à des niveaux de quittance, pas des niveaux de loyer, des niveaux de quittance globale qui permettent aux bénéficiaires, finalement, d'être convaincus de l'opportunité que ça représente pour eux. On a beaucoup travaillé ça avec la métropole toulousaine, et effectivement, y compris en interbailleur, d'ailleurs, on a des systèmes de compensation qui reposent sur une enveloppe financière calculée sur le taux de rotation, qui nous permet, finalement, de ne pas perdre de rentabilité locative, tout en satisfaisant un niveau de quittance acceptable pour le locataire relogé.
Et quels sont les impacts, finalement, aujourd'hui, pour vous, dans l'attribution de logements hors QPV vis-à-vis des ménages qui sont peut-être les plus précaires? Est-ce que vous pouvez nous donner quelques chiffres, si vous en avez à communiquer?
Le chiffre qui me vient immédiatement pour répondre à votre question, il n'est pas en termes de valorisation de loyer, mais plutôt en termes de capacité des gens à accepter le changement. On sait globalement, et Olivier, je parle sous ton contrôle, que dans le processus de relogement des ménages issus des démolitions, on est sur un tiers de gens que nous relogeons sur les quartiers, un tiers de gens que nous relogeons sur la métropole toulousaine et un tiers de gens que nous logeons sur le périmètre extérieur à la métropole, à la ville de Toulouse, pardon. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que il y a une proportion importante, le tiers là, que nous ne pouvons, qui sont scotchés en fait, qui sont scotchés au quartier, qui ne sont pas du tout en mesure de quitter un territoire auquel ils sont attachés, qui leur offre un niveau de service satisfaisant, un niveau de loyer qui est acceptable. La diversification de l'offre, elle se travaille à l'échelle globale et par cercle concentrique en réalité pour permettre aux gens de tout simplement avoir les ressources matérielles mais aussi psychologiques d'aller à l'extérieur du quartier. Ce qui nous amène quand même à un vrai sujet de... c'est quoi la mixité sociale à l'échelle d'un quartier prioritaire à la politique de la ville et comment finalement aussi on peut admettre que ces quartiers jouent un rôle de tremplin et la nécessité pour nous en termes de données de les regarder fonctionner en flux, eux aussi, et pas en stock.
Vous avez mis en place une politique de diversification des typologies de logements. Est-ce que vous vous adaptez aussi, je dirais, l'offre de logements sociaux face à la diversité des demandes ?
Je donnerai un exemple. Le quartier Rennery, donc un des deux quartiers du Mirail, nous apparaît intéressant de effectivement diversifier l'offre en répondant à un public cible tout à fait particulier, que sont les personnes âgées. Et la diversification de l'offre sur ces quartiers, c'est de effectivement développer du logement à destination du public senior de ces quartiers-là et d'être dans des offres intergénérationnelles qui n'étaient pas très présentes finalement sur le quartier.
Il y a une modalité de gestion aussi que vous appliquez avec les différents réservataires. Comment ça fonctionne ?
Alors là... On va dire qu'on est encore dans les 6 mois de la mise en œuvre. Ouais. On est plutôt dans des phases de test où on fait correspondre finalement l'offre de logement qui se libère au profil de nos réservataires. Et effectivement, il y a des pratiques professionnelles qui émergent avec le conseil départemental et l'État et au titre du DALO, mais aussi au titre du PDH à l'LPD. Évidemment, une résidence en jeu de mixité sociale où on sent qu'il y a de la fragilité, le logement qui se libère ira plutôt tendanciellement vers notre réservataire Action Logement pour aller chercher un public salarié perçu comme stabilisant de notre équilibre de peuplement. Donc j'ai envie de dire qu'il y a quand même, dans la mise en œuvre de la réforme, beaucoup de bon sens aussi.
Olivier Duvernois, les actions qui ont été engagées, est-ce qu'elles ont permis d'entraîner de profonds changements ? Et si c'est le cas, est-ce qu'on peut dire lesquelles ?
Alors là, on est un petit peu au milieu du guet. C'est, ouais. Voilà, que ça soit à la fois sur effectivement le travail qui est en cours sur la question des attributions au niveau de la CIL, et aussi effectivement sur les processus de renouvellement urbain, c'est-à-dire qu'on a plutôt beaucoup démoli. Et aujourd'hui, on est en train de travailler sur les questions de reconstruction. Il y a deux points, deux actions moi, qui me semblent très importantes que je voudrais effectivement peut-être mentionner ce matin. C'est le travail que l'on fait aujourd'hui pour identifier, dans le cadre d'une politique foncière, des fonciers qui permettront aux bailleurs démolisseurs de reconstruire hors des QPV. En PLAI, donc c'est vraiment bien cette idée effectivement de se dire que la mixité sociale c'est bien dans un rapport entre ce qui se passe en QPV et ce qui se passe à l'échelle de la métropole. Et j'ai en tête quelques fonciers qu'on a fléchés, voilà, avec vraiment de la suite dans les idées pour le préserver sur les bailleurs démolisseurs, parce qu'un certain nombre d'opérateurs bien évidemment se positionnaient en disant mais pourquoi eux et pourquoi pas nous, y compris des opérateurs privés dans les questions d'équilibre d'opération. Et puis le deuxième point qui me semble très intéressant à mettre en avant et aujourd'hui qui se fait plutôt à l'échelle d'un QPV et de la rainerie en particulier, c'est tout le travail que l'on fait aujourd'hui sur les questions effectivement de diversification de programmes et vers quel type de ménage on s'adresse. globalement, si c'est pour faire de la défisque à la rainerie, c'est absolument sans intérêt. Et donc aujourd'hui, on travaille énormément avec les promoteurs pour mobiliser au maximum la TVA 5,5, les primes en rue, pour s'orienter vers des propriétaires occupants. Et des propriétaires occupants qui n'ont pas besoin effectivement d'être à l'autre bout de Toulouse. Des fois, effectivement, la bonne échelle, c'est celle du quartier et du quartier du Grand Mirail, où on est effectivement dans des trajectoires résidentielles avec des gens qui souhaitent venir habiter dans leur logement en tant que propriétaire, mais voilà, dans un environnement un petit peu différent. Et ça, il y a un travail très fin aujourd'hui que l'on fait avec les promoteurs, justement sur, c'est un peu ce que disait aussi Stéphanie, sur le juste prix du logement pour permettre cette diversification-là. Donc il y a des travaux, voilà, c'est très très poussé. On rentre dans le bilan du promoteur pour être sûr effectivement que le prix du logement est le juste prix. Ça va permettre effectivement de répondre à ces besoins-là.
Allez, Carole Rifosta, en quelques mots, comment est-ce que vous auriez envie de conclure sur un sujet qui est aussi fondamental que la mixité sociale et en et hors QPV et dans les attributions de logements sociaux?
Oui, on a notamment parlé de la gestion en flux et du rôle du bailleur par rapport à la possibilité effectivement d'être en responsabilité sur les objectifs de mixité. Mais c'est vrai que ce que nous, on avait imaginé dans le cadre de la mise en œuvre de cette politique, c'est effectivement de positionner le bailleur comme un ensemble lié au service des différents réservataires. Et en fait, comme un équilibriste, à essayer de faire les orientations des logements qui vont bien, que ce soit effectivement à l'échelle de la résidence, du quartier et en lien avec les objectifs, on ne l'a pas encore cité, mais du PLH. Tout ça, en fait, tous ces documents doivent être cohérents finalement. Il faut vraiment se saisir des outils qui existent aujourd'hui. Il y a un autre outil qu'on n'a pas forcément abordé aujourd'hui non plus, c'est celui peut-être qu'on retrouve aussi sur les périmètres en rue de la minoration de loyer. Donc c'est facile effectivement quand on a des subventions fléchées dans le cadre de l'ANRU. Peut-être il faut aussi développer ce type de dispositifs qui sont aussi parfois portés hors ANRU, je pense par les conseillers départementaux, les conseils départementaux notamment, qui proposent quand ils le peuvent aussi d'accompagner ces dispositifs de minoration de loyer. Donc en conclusion, pour aboutir à cet objectif de mixité sociale, c'est une combinaison pour moi de l'ensemble de ces leviers qui existent, et la circulaire était là effectivement pour les ressouligner et les reproposer aux acteurs en proposant vraiment une synergie, un partenariat entre l'ensemble des parties prenantes.
Et merci pour ces pistes de réflexion. Allez, avec Hélène Parmentier, chargée de mission à la sous-direction territoire et usagers au sein du ministère chargé du logement, on continue cette émission avec les questions que se posent les auditeurs, Hélène.
Oui, Jean-Baptiste, alors je vais regrouper peut-être deux questions sur des thématiques. Ma première question, donc, pour les acteurs du territoire qui rencontrent des difficultés à mettre en œuvre cette circulaire, quelles solutions pouvez-vous apporter pour faciliter la mixité sociale dans les attributions hors QPV, notamment pour les ménages les plus défavorisés ou en difficulté?
Alors l'une des pistes aussi, on a parlé de développer du PLAI hors QPV. N'oublions pas qu'il y a aussi des ménages qui sont très 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 fragiles. Donc il faut effectivement accompagner également les programmes du PLAIA. Après, en termes de solutions, c'est un peu tous les leviers qu'on a un petit peu identifiés ce matin, avec la possibilité aussi de suivre, d'évaluer en continu l'avancée de l'objectif et d'identifier les freins pour pouvoir y apporter des réponses locales en fait.
Autre question, Hélène ?
Oui, est-ce que vous avez des retours au niveau des services de l'État à l'échelle départementale en termes d'application et d'actions concrètes mises en place ? Est-ce que vous avez des exemples peut-être concrets à nous partager ce matin ?
Alors oui, par exemple, sur le relogement des ménages d'Allo hors QPV, certains ont pris le parti de cibler les quartiles, donc premier et deuxième quartile hors QPV, et de plutôt conserver les attributions des autres quartiles pour les ménages d'Allo en QPV. Donc ça, c'est des exemples en fait qui sont effectivement mis en place, même si on n'a pas beaucoup de recul à ce jour.
On a fait le tour des questions ?
Oui, pour cette première émission, oui.
C'est très bien. Merci beaucoup, Hélène. Il ne me reste plus qu'à vous remercier également, vous tous, d'être venus sur ce plateau. Merci de nous avoir suivis. Nous sommes toujours en direct de Montpellier, le congrès HLM, 84e édition, sur les antennes de Radio Immo, Radio Territoria. Une émission que vous pouvez également retrouver disponible en podcast sur les plateformes de diffusion. Merci de votre fidélité et on se retrouve tout à l'heure. Merci.
Merci.
Vivez le 84e congrès HLM de l'Union sociale pour l'habitat du 24 au 26 septembre 2024 à Montpellier depuis le stand du gouvernement en partenariat avec Radio Territoria.